Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les dernières déclarations du régime nord-coréen, fin des essais atomiques et sommet Corée du Nord-États-Unis sous peu, précision dans un instant. Les droits de l'homme bâillonnés comme jamais en Égypte. Ce qui anime le régime syrien quand il bombarde et bombarde encore les zones qu'il ne contrôle toujours pas au sud de Damas. Décryptage du spécialiste Ziad Majed. En fin de journal, les enjeux des élections libanaises de dimanche prochain dans la face cachée du globe, signé Nabila Hamel. L'invraisemblable sommet Pyongyang-Washington pourrait avoir lieu à Singapour ou encore en Mongolie dans 3 à 4 semaines. Le 29 novembre dernier, souvenez-vous, Kim Jong-un proclamait que son pays était devenu un état nucléaire. Dans la nuit, le porte-parole de la présidence sud-coréenne a relayé la dernière promesse en date du Nord, fermeture en mai de son site d'essai atomique, puis opération portes ouvertes à des experts américains. Bien lire, américain. Séoul, Frédéric Jardiès.
Kim Jong-un veut démanteler son site d'explosion nucléaire souterraine, baptisé Punggye-ri, dès le mois de mai, assure la Corée du Sud, qui ajoute que Pyongyang invitera sur place des experts et des journalistes sud-coréens et américains. Toujours selon Séoul, Kim Jong-un a aussi réfuté, lors de sa conversation avec le président sud-coréen, les allégations selon lesquelles ce fameux site serait en réalité inutilisable. Il a même révélé l'existence de 2 autres tunnels d'essai. Décidé à convaincre de sa sincérité, Kim Jong-un aurait même déclaré « Si les États-Unis promettent de mettre fin à la guerre et de ne pas nous agresser, pourquoi garderions-nous des armes nucléaires qui rendent notre vie difficile ?» Enfin, le dirigeant nordiste a annoncé que la Corée du Nord changerait son fuseau horaire de 30 minutes pour que l'heure de Pyongyang soit désormais la même que celle de Séoul, une annonce complètement inattendue. Kim Jong-un semble ainsi décidé à montrer sa bonne volonté à un mois de ses pourparlers nucléaires avec le président américain Donald Trump.
Frédéric Jardiès de RFI, la Corée du Nord formule même une autre offre de service. Kim Jong-un se dit prêt à dialoguer avec le Japon. Attardons-nous sur l'engagement, celui de fermer un site d'essai atomique avec une question simple. Le nucléaire nord-coréen, combien de divisions ? Élément de réponse avec Jean-Marie Collin, cofondateur de l'ONG Initiative pour le désarmement nucléaire. Il est au micro de Matteo Maestracci.
D'après les chiffres qui sont évidemment non officiels puisqu'ils ne viennent pas de la Corée du Nord, oui. D'après un certain nombre d'experts internationaux, des informations plus ou moins relayées par certains services de renseignement, on estime que l'arsenal nord-coréen serait composé d'une dizaine d'ogives nucléaires, qui est le plus petit arsenal nucléaire au monde, si on compare aux 7000 armes américaines par exemple, ou russes, ou aux 300 françaises. Et la Corée du Nord est dotée d'un certain nombre de missiles qui ont des capacités d'aller à quelques milliers de kilomètres. Ils ont vraiment un arsenal complet. Démanteler le site d'essai, ça veut dire ne plus construire de nouveaux tunnels, par exemple, pour pouvoir procéder à des essais. Ça veut dire enlever toutes les installations techniques qui sont autour, toute l'informatique, par exemple. Enfin, un certain nombre de choses qui ne permettront plus de réaliser des essais nucléaires. Voir ce qui serait le mieux, évidemment aussi, c'est de réhabiliter l'environnement, puisque une partie de l'environnement a évidemment été polluée par ces essais nucléaires. Quant au démantèlement des armes nucléaires en elles-mêmes, il y a des processus, je vais essayer d'être le plus clair possible, qui s'appellent notamment la vitrification, c'est-à-dire qu'on enlève les matières fissiles, type l'uranium ou plutonium, et de façon assez simple, je l'explique, on mélange avec un type de verre, ce qui permet après de ne plus pouvoir utiliser ces matières et donc de ne plus pouvoir concevoir d'armes nucléaires.
Jean-Marie Collin, cofondateur de l'ONG Initiative pour le désarmement nucléaire. Nouveau rassemblement palestinien ce matin à la frontière entre Gaza et Israël dans le cadre de la marche du retour des réfugiés entre le 30 mars et le 15 mai. Avant-hier, 4 morts et 600 blessés dans des tirs israéliens. Le haut commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme dénonce l'usage excessif de la force par Israël. Les médias d'État syriens, eux, ne cessent de glorifier les faits d'armes des troupes loyalistes aux prises avec des effectifs de l'organisation État islamique sur les bords de l'Euphrate, à la frontière irakienne, comme aux environs immédiats de Damas, précisément, à Ajar al-Aswad et Qadam. Ces deux localités, auxquelles il faut ajouter le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, sont ciblées depuis le 19 avril. Pour quelles raisons, véritablement ? Eva Jennak a sollicité Ziad Majed, professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris.
Ce qui peut expliquer aujourd'hui l'acharnement des combats dans cette zone et le bombardement intensif, bien que avant il n'y avait pas des combats et l'émergence de Daesh était presque une surprise puisque la zone était assiégée, c'est que toute cette zone du sud de Damas, où il y a encore une partie de la population, est une zone qu'un projet de reconstruction est prévu par le gouvernement du régime syrien, qu'il y a une loi, la loi numéro 10, qui va permettre à ce régime de saisir tous les biens des gens qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont là-bas. La population de cette zone a été déplacée déjà, et ceux qui restent maintenant, il y a aujourd'hui des négociations pour qu'ils soient déplacés mardi, donc pour qu'ils quittent la région mardi, comme tous ceux qui ont quitté déjà Alep Est, la route orientale. Donc ce n'est pas la question seulement de déloger les djihadistes, c'est une volonté de détruire aussi et de raser, de créer des dégâts qui à la fois peuvent trouver ce prétexte de lutte contre des combattants opposés ou dans le cas du camp de Yarmouk aujourd'hui contre les djihadistes, mais ça s'inscrit aussi dans une logique de destruction, de terres brûlées, qui permettrait au régime de confisquer les biens, de déplacer la population, d'effectuer un changement démographique et parfois même d'installer des familles ou une nouvelle population qui pourrait être loyale au régime et surtout aux Iraniens.
L'étau syrien, la réconciliation inter-palestinienne, le chaos libyen vont rythmer les échanges auxquels s'est préparé le chef de la diplomatie française en visite au Caire depuis hier soir. Jean-Yves Le Drian prétend également aborder la question des droits de l'homme devenue brûlante en Égypte depuis l'avènement au pouvoir d'Abdel Fattah Sissi. Le sort réservé au photojournaliste Mahmoud Abouzaïd dit tout de ce régime. Notre confrère, plus connu sous le nom de Shao Kahn, est emprisonné depuis 4 ans. Il encourt la peine de mort. D'ailleurs, l'UNESCO, présidée par la Française Audrey Azoulay, va lui remettre mardi prochain son prix Guillermo Cano. François Ferkataji de RFI nous appelle du Caire.
Mahmoud Abouzaïd, dit Shao Kahn, est devenu le symbole d'une presse bâillonnée en Égypte. La photo du jeune homme mimant une prise de vue derrière les barreaux de sa prison a fait le tour du monde. L'UNESCO va lui remettre le 2 mai prochain le prestigieux prix pour la liberté de la presse. Une décision que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, Mahmoud Abouzaïd, juge humiliante.
Il y a 100 millions d'Égyptiens qui se sentent vraiment humiliés et affectés. Ils voient qu'une organisation qui a une relation cordiale avec l'Égypte donne un tel prix et reconnaît un individu qui a été impliqué dans la déstabilisation du pays.
Le parquet a requis la peine de mort contre le photojournaliste qui est en prison depuis 4 ans et demi et qui n'a toujours pas été jugé. Il souffre, selon ses proches, de dépression et d'épuisement moral. L'UNESCO entend rendre hommage au courage et à l'engagement du reporter. Mais pour le ministère des Affaires étrangères égyptien, le journaliste ne mérite pas ce prix.
Si vous regardez sa carrière en tant que journaliste, comme vous dites, il était dans ce domaine depuis un an ou deux avant 2011. Donc nous nous demandons quel genre de contribution il a fait pour le journalisme dans le monde qui pourrait être une raison de le choisir.
Reporters sans frontières place l'Égypte 161e pays dans son classement annuel sur la liberté de la presse dans le monde.
Il est 12h38, vous écoutez France Culture. L'Organisation des États américains fait tout pour envoyer au plus vite une commission des droits de l'homme au Nicaragua. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont pacifiquement défilé. Aucun heurt, pas de décès imputé aux forces de l'ordre et un défilé supplémentaire impulsé par les étudiants. Les étudiants qui ne participeront à aucun pourparler tant que la lumière ne sera pas faite sur les 43 morts sous les balles des forces de l'ordre depuis le début de la contestation. Bonjour Benjamin Delisle.
Bonjour.
Benjamin, cette phase peut-être être déterminante pour le président Daniel Ortega ?
Oui, car les rapports de force ont changé. Lorsque la contestation a commencé il y a 10 jours, c'est surtout les milieux étudiants qui manifestaient contre une réforme du système de sécurité sociale. Mais la répression de ces manifestations a créé beaucoup d'émoi dans le pays. La contestation s'est donc rapidement étendue à toutes les strates de la société pour exiger le départ du président Ortega et de sa femme. Dès lundi dernier, une importante mobilisation d'hommes d'affaires nicaraguayens a poussé le couple présidentiel à s'ouvrir au dialogue. Et il semblerait bien qu'avec la manifestation d'hier, on entre aujourd'hui dans une nouvelle phase où c'est l'Église catholique qui mène la danse. Malgré les relations tendues entre le clergé et Daniel Ortega, l'Église avait été choisie la semaine dernière comme médiatrice en vue d'un dialogue entre l'exécutif et l'opposition. En mobilisant plusieurs dizaines de milliers de personnes ce week-end, elle peut maintenant poser ses conditions. Elle exige notamment des garanties pour l'ouverture d'un dialogue. Et parmi ces garanties, il y a la mise en place d'une commission commission indépendante pour enquêter sur les 43 personnes tuées au cours des premières manifestations. Dans ce contexte, reste à savoir si Daniel Ortega peut refuser ces conditions à l'église, comme il l'a fait au départ avec les étudiants.
Merci à vous, Benjamin Delisle. 12h40, l'heure de la face cachée du Globe ce dimanche. Nabil Hamel, vous nous entretenez des élections de dimanche prochain au Liban. Il faut dire que la diaspora libanaise a commencé à voter aujourd'hui. Bonjour Nabila.
Bonjour Mathieu. Après le sommet intercoréen, quelques autres initiatives à signaler. La présidente taïwanaise s'est dite vendredi prête à rencontrer son homologue chinois Xi Jinping pour la paix et la stabilité sans conditions préalables. La Chine continentale et Taïwan sont dirigés par des régimes rivaux. Pékin considère Taïwan, où les nationalistes se sont réfugiés en 1949, comme une province sécessionniste. Timide rapprochement entre l'Inde et la Chine avec un sommet informel organisé hier en Chine. Narendra Modi et Xi Jinping ont estimé que leurs deux pays avaient la maturité et la sagesse requises pour traiter leurs différends par le dialogue. Derrière la rhétorique de réconciliation et l'organisation par l'Inde d'une nouvelle réunion informelle l'an prochain, les divergences entre Pékin et New Delhi demeurent de taille. En parallèle au litige le long des 3500 km de leur frontière commune, les deux géants de l'Asie sont en désaccord sur le grand projet de Xi Jinping de nouvelle route de la soie. Cap sur le Liban qui tiendra dimanche prochain des élections législatives, les premières après une impasse de 9 ans. Joseph Baout, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue à l'Institut Carnegie de Washington. À trois reprises depuis juin 2009, les parlementaires libanais ont prorogé leur mandat parce qu'ils évoquaient la crainte d'un débordement de la crise syrienne dans le pays et la nécessité d'amender la loi électorale. Alors après cette longue parenthèse, quels sont les enjeux du scrutin de dimanche prochain ?
C'est de reprendre un cycle électoral normal, de mettre fin à cette interruption qui aujourd'hui devenait proprement scandaleuse. Le deuxième enjeu qui est lié à cela, c'est de voir au bout de 9 ans une période assez longue durant laquelle, il faut rappeler, la région est complètement sens dessus-dessous, comment tous ces changements se répercutent sur la scène libanaise, où aussi il y a eu de très gros changements dans les alignements politiques, les alliances, les forces, même des figures qui ont émergé et d'autres qui ont disparu. C'est donc de servir de baromètre et de voir devant quoi on est. Le troisième enjeu, bien sûr, c'est de voir quel va être le paysage politique, dans quelle mesure il va rester le même, je pense qu'il va le rester très largement, et dans quelle mesure il va y avoir de nouvelles, disons, dynamiques qui sont enclenchées. C'est de voir pour la première fois dans l'histoire d'un pays comment un mode de scrutin proportionnel peut changer, disons, les règles du jeu politique, voir un peu comment une nouvelle culture électorale va s'adapter à une mentalité libanaise qui est après tout extrêmement, disons, personnaliste, extrêmement tournée vers les notabilités traditionnelles.
77 candidates, il y avait seulement 4 femmes députées dans la précédente législature. Est-ce qu'elles ont plus de chances d'entrer au Parlement ?
Il y aura sans doute un peu plus de femmes dans le Parlement prochain, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qui sera un gros bouleversement. Il faut aussi voir qu'une bonne partie des femmes qui se présentent et qui probablement seront élues sont des héritières entre guillemets politiques, c'est-à-dire qu'elles continuent la ligne politique soit de leur mari, soit de leur père ou de leur frère. Je crois qu'il faut en même temps être content du fait qu'une grande partie des listes et des partis se sont rendus compte qu'il fallait présenter des femmes sur leur liste.
Oui, mais l'héritage politique est surtout une histoire d'hommes au Liban, puisque l'on retrouve parmi les candidats les troisième génération de chefs de clan politique.
C'est une donnée structurelle de la vie politique libanaise. Depuis la formation du Liban en 1920, et donc vous n'avez pas un seul parlement dans l'histoire du Liban où il n'y a pas un Jumblat, un Frangier, un Gemayel, etc. Donc il n'y a rien de très nouveau ici. Bon, évidemment, certains disent qu'il faut qu'on sorte de ce système de recrutement de la classe politique. Tant qu'il n'y aura pas des partis politiques transversaux, transcommunautaires et qui dépassent le cadre seulement familial, je crois qu'on continuera à produire ce type d'élite politique. Mais je crois que c'est un caractère durable et résilient de la sociologie politique libanaise à laquelle on a affaire là.
Joseph Baout de l'Institut Carnegie à Washington. Un fourmilier en pleine nuit, sous un ciel étoilé, l'image prise au Brésil a valu à son auteur un prestigieux prix photo 2017 consacré à la vie sauvage dans la catégorie animaux dans leur environnement. Sauf que le règlement stipulait que les œuvres ne devaient pas tenter de représenter faussement la réalité. Or, il s'agissait très probablement d'un spécimen empaillé. Le photographe s'est vu retirer son prix. à dimanche prochain.
À dimanche prochain, merci à vous Nabil Hamel. La face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Soleil voilé à l'est, 9 départements du nord-est placés en vigilance orage. Pluie fine sur la moitié ouest, température maximale comprise entre 18 et 25 degrés. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Anthony Thomasson.